Le voyage à l'île de Cordy. La porte refermée bruyamment fit résonner au bout de la longue galerie l'écho qui sommeillait entre les deux cariatides du fond. Des hanches de pierre engainaient leurs torses de marbre pâle et comme luisant d'une sueur éternelle, et la crispation de leurs bras levés soutenait le haut plafond d'or. Les mosaïques du pavage miroitaient et je marchais à pas lents dans le vide sonore du lieu, en songeant que, certes, l'âme du prince, comme ce dallage, était glissante et périlleuse et peinte aussi de figures bizarres et d'arabesques entrelacées. L'altercation survenue entre Son Altesse et moi me laissait en souci. Mon obstination avait heurté son caprice. Une heure durant, il s'acharna à réduire ce qu'il appelait mon entêtement. Je le revoyais dans son vaste cabinet, meublé d'armes et de poupées, car il se plaisait à manier le fer et à jouer aux marmousets. Il se connaissait en épée et en fantoche, aimant les panoplies et les mannequins dont il avait des unes toute une collection et des autres toute une assemblée. Mais au fond, son armurerie le préoccupait moins que ses marionnettes. Leurs mines de cire peinte, leurs corps de chiffon, leurs bras d'osier se prêtaient à des jeux de fard, de parure et d'attitude, étaient complaisants aux uniformes, aux robes, aux livrées, et leur petite taille servait au prince à des essais en miniature d'où ensuite il réglementait la vie des troupes, la soutenue des valets et même l'ajustement des dames. Il y croyait exceller et l'empruntait parfois moins pour se divertir que dans l'espoir inavoué qu'on admirait la grâce de son travesti et la galanterie de sa mascarade. Je le revoyais donc coudoyant ses figures et discutant avec l'âpreté d'un maniaque, joint à la rouerie d'un diplomate, le point où il voulait m'amener. Parfois, en arrêt devant un miroir pour s'y rajuster, j'y apercevais sa face palote et son grand nez, ses basques lui battaient aux jambes et il revenait à moi, plus acharné peut-être enfin à vouloir contre mon gré qu'à me convertir au sien. Le caractère du prince m'était assez connu pour, d'ordinaire, échapper par quelques biais aux ordres de sa fantaisie ou aux pièges de son humeur, mais cette fois, sa colère le rendait clairvoyant, et rien ne le rebuta de son entreprise, rien, pas même le ridicule que je lui en montrais poussé à bout et au risque d'un sursaut dangereux de sa vanité. Tout en vain, et je compris un petit tremblement de sa lèvre et un éclair mauvais de ses yeux jaunes, que les traverses m'avaient ramené à la patte d'oie où s'ouvraient les routes qui pouvaient bien être celles de la disgrâce. Je rentrais chez moi pour réfléchir aux difficultés de ma situation et je cherchais encore les moyens de me tirer de ce pas fâcheux quand le lendemain matin, on m'apporta un message. Son Altesse m'y enjoignait de partir sur le champ pour l'île de Cordic, de laisser mon équipage à la côte et de débarquer seul pour me rendre à un lieu indiqué où je trouverais ses instructions. Ma perplexité, après réflexion, se décida à tirer bon augure du tour que prenait l'avènement. La colère souveraine me semblait en détente et je conçus l'espoir d'échapper aux suites que son excès m'avait fait un instant prévoir. Un voyage ennuyeux, avec au bout quelques facéties où je me prêterais de bonne grâce, m'en paraissait l'issue probable. Souvent de telles aventures se dénouèrent d'eux-mêmes, et on s'en disait certaines à l'oreille où de fort graves personnages avaient dû subir en châtiment les malices et les bouffonneries du prince maniaque dont les cocasses rancunes se satisfaisaient de riser ou d'un déboire, et je me résignais assez bien à ajouter à mes dépens un récit de plus aux légendes qui faisait de notre bizarre maître le sujet des bâcleurs de romans et des conteurs de nouvelles. Il relevait d'ailleurs plus de l'anecdote que de l'histoire. Sa petite cour était singulière. Les chutes y ressemblaient à des culbutes, et l'acrobatie des ambitions y voisinait avec les pirouettes des vanités. Les gros chevaux à queue nattée battaient du sabot le pavé. Le cocher se carrait sur son siège. Je montais, la portière claqua, les roues tournèrent, et la voiture franchit la grille. Le palais se dressait au bout de la grande place, grisâtre dans le petit jour. La cour d'honneur était déserte. Derrière la vitrine d'une fenêtre de l'aile nord où se trouvaient les appartements du prince, je l'aperçus, guettant mon départ, la main au rideau qu'il laissa retomber après mon passage. La route allait d'arbre en arbre, de borne en borne, de ville en ville. Les relais alternaient avec les auberges. Des ponts bombés sonnèrent, des montées attardèrent l'attelage qui se attelait aux descentes. Un bac me traversa un fleuve. Je n'étais jamais allé à l'île de Cordique. Des passes périlleuses séparaient de la côte son port de pêcheurs, sa terre inculte. Vers le matin du troisième jour, je ressentis les approches de la mer. Les arbres se penchèrent, rabougris, noueux, comme pour mieux résister par leur musculature naine aux attaques du vent. L'air fraîchit. À un détour, j'aperçus les eaux. Elles s'étalaient d'un gris tendre sous un ciel pâle. Bientôt la route s'engagea sur une étroite presqu'île de pierre et de sable qui prolongeait sa nudité jusqu'à un humble village à sa pointe. La voiture s'y arrêta et je descendis. La mer déferlait devant moi sur une petite grève molle où les pas marquaient. Quelques barques se tenaient dans une anse, une d'elles consentit à me mener dans l'île. Je m'embarquais, muni d'un porte-manteau, et je regardais diminuer peu à peu, immobile là-bas, avec son gros cocher à livrée verte et ses panneaux peints, mon carrosse dont les chevaux pommelés grattaient du sabot le sable humide où sourdait l'eau de la mer montante. La barque se balançait lentement. L'eau autour d'elle devenait bleue sous le ciel clair. Les vagues enflaient leurs glauques rondeurs. Parfois, une crevait en écume, la plupart bossuaient leur enflure d'une échine invisible. Un profond mouvement intérieur les animait, le mât grinçait. L'ancre, encore ruisselante du fond d'où on l'avait tirée, crispait ses pinces de crustacés. Elle gisait sur le pont animal et rugueuse. Des mouettes tournoyaient. Enfin apparut à l'horizon une côte, basse d'abord et qui gravit peu à peu. Elle sortit de la mer à mesure que nous approchions, et nous vîmes bientôt ces hautes falaises vaporeuses qui se solidifièrent. Nous naviguions proche de l'île. Une pointe de roc tournée, la porte de port s'ouvrit. Une fois à terre, je me mis en quête de l'auberge et ensuite je revins flâner le long de la mer. Le reflux découvrait la vase du bassin. Des algues s'égouttaient des parois du quai. Elles pendaient gluantes et lisses. Des enfants jouèrent interminablement à faire rouler les galets sur les dalles. Un vieil homme fumait en rapiéçant une voile. Je voulus monter sur la falaise où conduisait un sentier. Elle était escarpée, herbue. Une fourrure de bruyère rousse courait son dos et son flanc décharné plongeait à pic dans la mer. L'âpreté de la chaleur cuisait le roc. Du point de ma promenade, une partie de l'île s'étendait à ma vue. Elle apparaissait oblongue, sans arbres, dans la terrible désolation de son pelage de mousse où perçaient des nuques de pierre l'ossature de sa nudité fauve. Le soleil se coucha en rougeoyant. L'île entière devint violette comme vieille d'un subit automne de crépuscule. Sur la mer, un retour de barque voltait épars. Les voiles d'ocre ressemblaient à des feuilles mortes, les seules que le vent dispersa jamais autour de cette île sans arbres, où je me demandais vraiment ce que m'avait envoyé faire le prince, et où, par l'ennui que j'y ressentais déjà, sa rancune prenait un air de vengeance. Les voiles d'ocre erraient toujours sur la mer violâtre. Des nuées héraldiques blasèrent le ciel. Les barques rentrèrent au port en même temps que j'y redescendis, car mon auberge donnait sur le quai et le soir, remonté dans ma chambre, je les entendis captives au bassin geindre sourdement sur les câbles de leurs ancres. Le lendemain, à mon réveil, le ciel fut gris et compact. Un vent violent y étirait des nuées courantes. La mer verdâtre blanchissait l'écume. La poussée des flots harcelait les falaises. Je pris un guide pour me conduire au lieu indiqué où devait se dénouer l'énigme de mon voyage. L'endroit était une table de pierre située à la pointe sud de l'île. Nous traversâmes d'interminables bruyères, des bandes de moutons noirs y passaient, chacun, pour que les troupeaux ne se mêlassent point, attachés par une corde à un piquet. Ils broutaient tranquillement. Notre approche les épeura, nous les voyions alors tourner en rond autour du pieu comme pris de folie, et sur cette lande sauvage, ces moutons sorciers semblaient tracer des cercles maléfiques. J'interrogeai l'homme qui me conduisait. Il me raconta les terribles hivers de l'île, la tempête ruée à l'assaut des côtes, les portes entrebâillées, les maisons accroupies, les habitants forcés à ramper par la force du vent, tout ce pauvre peuple animal opposant à l'intempérie sa posture bestiale et son vêtement de laine. Nous marchions toujours. Le vent augmentait à mesure que le terrain s'exhaussait. On sentait son étreinte. Sa sournoiserie se faisait brutale. Son attaque fourbe rusait. Sa fuite même déconcertait. Nous étions maintenant sur un plateau de falaise en éperon, croulant droit en la mer, ses blocs qu'assaillait la marée. C'était un double tumulte, l'un incohérent, l'autre pétrifié. Des flocons d'écume passaient sur nos têtes. La haute table de pierre se dressait là. Sous un fragment de rocher, je trouvais, comme on l'avait averti, l'ordre princier. J'y lus, stupéfait, qu'au cas où ma résistance s'obstinerait, l'exil sur cette terre cruelle tâcherait d'en avoir raison. Il fallait opter sur le champ. La concision de l'arrêt m'en montra le sérieux. La facétie prévue prenait un masque tragique. L'éclair des yeux jaunes n'avait pas menti. Je regardais autour de moi. De l'horizon, des lames énormes déferlaient. Leur force éclatait en écume blanche. Les rocs hargneux faisaient face à la marée furieuse. Des gueules et des croupes affrontaient la ruée des vagues bavantes ou ruisselant. Le vent soufflait dans les herbes dures. Mon orgueil s'exalta. Le tumulte de la mer entra en moi. Je marchais tout le jour. Je connaissais trop les polices du prince pour penser leur échapper. Mon sort me semblait inévitable. Je compris l'erreur de ma hardiesse. En contrevenant aux caprices du maniaque, j'avais heurté la vanité du despote et dans les dangereux mannequins dont je m'abusais trop souvent, Ma bravade réveillait, comme héréditaire, le descendant de l'antigrâce rancunière, dont les parcelles subsistaient encore endormies au fond de l'altesse baroque. J'avais oublié que, dans le cabinet de poupée de Panoplie, seul à l'écart, sous l'aigle d'or qui s'éployait, une main de justice crispait au mur, en un ivoire vieilli, son rude poing, celui de l'ancêtre fondateur. Je marchais tout le jour, je descendis à de petites plages creusées dans les fureurs de la falaise. Le sable y était rose ou bleuâtre ou gris, ailleurs presque rouge. Je trouvais des grottes, vert et or, pleines de galets d'algues et de coquilles, avec des stalactites qui faisaient entre elles comme l'intérieur de carrosses de féerie. Toute ma vie me revenait en mémoire avec les fêtes, les mascarades et les plaisirs. J'entendais le rire des femmes. Leur nudité sortait une à une de la mer. Je comprenais alors la grâce de l'amour et la joie de la beauté. Je m'y sentais appelé par toutes les forces de ma jeunesse qu'un ordre imprévu sommait si inopinément de choisir entre son orgueil et son désir. Je revins au petit port, la soirée fut triste. Je revis tourner à leur piquet les moutons noirs. Ils me paraissaient tracer autour de moi des cercles magiques, comme s'ils envoûtaient ma destinée du signe néfaste de leur vertigineuse captivité. Des barques captives aussi geignaient à l'ancre. Elles n'avaient pu sortir aujourd'hui. Les marins, rassemblés oisifs sur le quai, dormaient ou jouaient aux dés. L'un d'eux, très vieux, me regarda longtemps aller et venir, puis il se détourna avec mépris et cracha par terre. Il devinait peut-être la bassesse de ma défaillance intime. La crainte de l'exil faisait plier mon orgueil. Les désirs de ma jeunesse m'entraînaient loin de l'île affreuse dont je n'avais pas compris le sens ni senti l'amère grandeur. Le lendemain, je regagnai la côte. Les chevaux pommelés piaffèrent à mon carrosse. Le cocher à livrée verte fouetta les croupes luisantes. Les queues nattées mouchèrent les panopins, reflétèrent la route, arbre par arbre, la grille de ma maison s'ouvrit pour mon retour. Les mosaïques de la galerie entrelacèrent sous mes pas leurs figures, leurs arabesques. Et dans le vaste cabinet princier, plein de poupées et d'épées, en face de l'antique point d'ivoire dont j'avais senti le poids à mon épaule, devant le fantoche ricaneur et radouci, arqué sur ses mollets maigres et ponants, dans son habit qui oscillait les plaques diamantées, je m'inclinai sur la main que l'altesse tendit à ma soumission, et je baisai la bague sigillaire dont j'avais reconnu l'empreinte et la lettre, que les vents furieux m'arrachèrent des doigts pour l'emporter dans la mer qui écumait autour de la nue, rocheuse et solitaire île de Cordique.